deuxième cours.
Et puis, vous aurez 3, 14 et 15. Alors, le chapitre 13e, il est d'une certaine manière assez simple à comprendre, et il est très important, parce que nous voyons comment les argumentations d'Aristote reprennent un peu tout ce qu'il a dit précédemment, pour montrer la différence qui existe entre l'ousia et l'universel, le catholique, n'est-ce pas, l'universel. Alors, c'est l'opposition qui monte entre les deux. Je vous reprends les 5 argumentations que donne Aristote, il en donne 5, en réalité successivement. La première, la substance de chacun est propre. Donc nous avions déjà vu ça, le point de vue des rapports entre la substance et chacun, et Castor. Bien que la substance ne soit pas, ne peut pas, le tiesti de la substance ne peut pas s'identifier à l'écaston, vous vous souvenez, c'est un problème délicat. Cependant, la substance est propre à chacun et elle n'appartient pas à un autre. Donc elle est propre à chacun et elle n'appartient pas à un autre. Alors que l'universel est commun. L'universel n'est jamais propre à un seul. On ne commencerait pas l'universel. Ça, c'est la première opposition très facile à comprendre, mais qui montre tout de suite la différence entre la substance, qui est quelque chose. Nous dirions, si vous voulez, la substance est individuelle. Hein. Elle est propre à chacun. Ça, c'est le point de vue individuel, mais en comprenant individuel, non pas dans le sens de l'individuation, mais dans le sens de dire que c'est quelque chose qui me caractérise fondamentalement. C'est quelque chose qui caractérise fondamentalement chacun. Tandis qu'au contraire, l'universel est un caractère commun à tous les autres. Deuxièmement, la substance n'est pas dite d'un sujet. Attendez, je le dis ça. La substance n'est pas dite d'un sujet. L'universel, au contraire, est tout entier relatif à un sujet. Vous voyez ce que dit Aristote dans les livres 4, 10, 1066, B13, où il dit l'infini ne peut être substance car il est l'attribut d'un sujet. C'est aussi très joli, c'est la même argumentation. Enfin, donc, 4, 1066, B13, à propos de l'infini. Donc, la substance n'est pas dite d'un sujet. Elle n'est pas dite d'un sujet et elle n'est pas dans un sujet. Retenez bien ça, nous l'avions déjà vu. Mais c'est important pour ce que nous verrons ensuite. Troisièmement, la substance ne peut être composée de qualité. Nous l'avions vu à propos de la diaphora. La diaphora, c'est le point de vue de la qualité. Donc la substance ne peut pas être composée de qualité. Car il y aurait antériorité de la qualité à l'égard de la substance. Si de fait la qualité était un élément de la substance, un élément qualitatif, la qualité serait antérieure à la substance. Ce qui est impossible, puisque la substance est première. L'universel peut être qualité. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est impliqué, ce qu'il dit que la substance peut être composée de qualité, et il nous montre l'opposition entre les deux. L'universel, c'est ce qui qualifie. L'universel, différence spécifique, diaphora. N'est-ce pas ? Donc l'universel, différence spécifique, est possible. Il y a un universel qui est une différence spécifique. Donc là, nous voyons bien que l'universel... Alors voyez, ce qui serait intéressant à voir, c'est que Aristote-là saisit les diverses modalités de l'universel. Il ne saisit pas l'universel en soi, mais les diverses modalités. Il faut penser au prédicat. Les différentes modalités de l'universel, c'est le genre, la différence spécifique, l'espèce, le point de vue de la propriété, et le point de vue de l'accident. Il faut voir ça, pas le prédicat. Les prédicats sont les 5 grandes modalités de l'universel. Et donc, nous voyons bien ici, les 5 grandes modalités de l'universel sont présentes. C'est très très clair. 5 argumentations d'opposition entre l'universel et la substance. Alors ici, évidemment, c'est très net, c'est l'universel comme différence spécifique. Quatrièmement, les idées séparées et l'arrêté. La substance ne peut pas être séparée. La substance signifie un taux d'éthique de ce dont elle est substance. Car si la substance était séparée, il y avait alors deux substances dans Socrate. Il y aurait Socrate, tout dit, et puis la substance séparée. Autrement dit, aucun prédicat commun ne signifie un tout dit. Je crois qu'ici, c'est l'opposition entre la substance et l'universel espèce. C'est assez net, c'est l'universel espèce, qui serait le plus proche, d'une certaine manière. Eh bien, l'universel espèce, qui donne bien la détermination, cependant, n'y vit pas au début. Alors, la cinquième raison, deux choses en acte ne peuvent former une chose une. Oui, c'est autant puissant. Donc, si la substance est une, elle ne peut pas être composée de substance en acte. Or, l'universel est un. Alors, on pourrait objecter, mais l'universel n'est pas l'unité en acte. C'est une unité qui demeure en puissance. Alors, Aristote ne l'entre pas dans cette discussion-là. C'est pas lui, du reste, qui soulève l'objection. Il dit simplement ça. On pourrait très bien soulever l'objection. Vous voyez ? Alors, la cinquième objection, la cinquième raison, c'est la plus subtile. C'est la plus subtile, parce que c'est celle qu'on voit le moins bien. On voit très bien l'argumentation. Deux choses en acte ne peuvent former qu'une seule. Ça va bien. Il faut que les réalités soient en puissance pour qu'elles puissent s'unir et former une seule réalité. Donc, si la substance est une, elle ne peut être composée de substance en acte. Ça, c'est très bien. Donc, à la façon, c'est tout à fait une autre argumentation que le voici de l'universel. La seule dépend de choses, et pourtant, c'est dans ce chapitre sur l'universel. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, je crois qu'on peut dire l'universel est un. Il est un en acte, de telle manière. L'universel accidentel. Et il possède une certaine unité. Alors, c'est toujours le propre de l'universel, vous savez bien, d'être unum in multis. Donc, si l'universel est unum in multis, même l'accident est unum in multis. Donc, il est quelque chose d'un, et quelque chose d'un qui implique une détermination, et donc qui ne peut pas former une substance. Il ne peut pas être un élément de substance. Alors, vous voyez, les quatre premiers sont très faciles à saisir. Les oppositions des quatre premiers sont très faciles à saisir. Alors, nous pourrions dire, je reprends pour voir les quatre modalités de l'universel, ou les cinq modalités de l'universel, dans ces cinq arguments, parce que je crois qu'ils sont là, les cinq. La substance de chacun est propre, et n'appartient pas à un autre. Donc là, nous pouvons dire que c'est l'aspect, si vous voulez, de la propriété. La substance n'est pas vue d'un sujet, c'est le point de vue du genre. Ça, c'est très très net. Le point de vue de la substance n'est pas la différence spécifique. Le point de vue, ensuite, c'est l'espèce, le quatrième. Et le dernier, c'est le point de vue accident. C'est pour ça que c'est plus subtil. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'Aristote montre que l'ousia ne peut pas être plus universel. Alors, mettez ça comme petite recherche personnelle, parce que je crois que c'est intéressant à bien donner. C'est très rare qu'Aristote nous donne une synthèse sur l'universel. Parce que quand vous regardez le point de vue des premiers analytiques et des secondes analytiques, ou quand vous regardez les catégories, Aristote se sert de l'universel. Mais il ne réfléchit pas sur ce que c'est que l'universel. Tandis qu'ici, nous sommes en métaphysique, et il réfléchit sur ce que c'est que l'universel, et les modalités de l'universel. Or, l'universel, où nous démultis un qui est dit de plusieurs. La définition tout simple de l'universel. Un qui est dit de plusieurs. Pensez à anima. Hein. Anima est un terme universel. Mais l'universel se donne selon les cinq modalités des prédicables, et je crois qu'ici les cinq modalités sont présentes. Alors, après avoir dit cela, Aristote dit qu'on demeure devant une difficulté. Ce chapitre se termine par un apport. Une difficulté. Si aucune substance ne peut être composée d'universel, parce que l'universel signifie telle qualité et non un être déterminé, s'il n'est pas possible que la substance soit composée de substance en acte, alors toute substance doit être incomposée. Et alors, il n'y aura définition d'aucune substance, donc de rien. Vous voyez la théorie devant laquelle Aristote se situe, il faut reconnaître. Il reste devant cette théorie-là. Il ne donne pas de solution. Nous voyons bien la solution, mais au fond, la solution n'est pas donnée ici. Autrement dit, Aristote termine ce chapitre 13 par une apôtre. C'est très difficile de dire que la substance n'implique pas de partie, parce que si elle n'implique pas de partie, alors seule la substance simple peut être définie. Or, on ne voit pas comment on peut définir les autres substances. Seule la substance, et comme de fait la substance simple, alors elle nous échappe, donc il n'y a pas de définition de rien. Bon, je n'entre pas dans cette question-là, je laisse simplement la force. Je vois que nous avons le temps de nous dire rien. Chapitre 14. Aristote montre, donc la conclusion du chapitre 13, en gros, est facile à comprendre. Hein, c'est que la substance ne peut pas être universelle. Mais alors ceci, c'est quand même très important, parce que ça montre bien la différence entre l'étude de l'ousia au niveau des catégories, et l'ousia au niveau du livre Zeta. Vous voyez, celui qui comprend le livre, le chapitre 13, ne peut plus faire cette confusion. Bon, parce que dans les catégories, on voit que l'ousia, c'est l'espèce et le genre. Et ici, il nous dit non, l'ousia n'est pas universel. Alors, c'est facile à comprendre que, de fait, il y a une distinction pour lui entre l'ousia prise au niveau logique et l'ousia prise au niveau métaphysique. Nous l'avions déjà vu. Le chapitre 14 est un chapitre extrêmement intéressant pour ceux qui feraient l'histoire de la philosophie, entre les passages, entre la pensée d'Aristote par rapport aux idées de celui-ci. Vous savez, c'est un grave problème, pas un problème toujours ouvert et toujours très difficile à bien comprendre. De fait, Aristote, il nomme pas Platon, il nomme les préphéniciens. Donc, il faut bien se rappeler ça. Très rare qu'Aristote nomme Platon. Il nomme les préphéniciens. Donc, ça fait appel à tout un climat devant lequel Aristote est. Mais c'est, je crois, très important, parce que ça n'a pas... Il est bien évident que la pensée de Platon, c'est développé dans les successeurs, et les successeurs, vous savez très bien, travaillent toujours les maîtres. N'est-ce pas, c'est la scolastique qui devient la scolastique de Platon, c'est pas Platon. C'est pas la répétition de Platon n'est pas Platon. Platon est autre chose. Et alors, on voit très bien comment les successeurs majoraient Platon. Et Aristote se trouve devant ce que représente la théorie des platoniciens. Et quand Aristote dit les platoniciens, c'est les platoniciens quand même, c'est pas Platon. Il a un respect beaucoup plus grand. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec les idées.
Non,
ça c'est très différent. Mais c'est différent. Alors, le chapitre 14 montre que les idées ne sont pas les substances. C'est très difficile. C'est un chapitre qui est difficile à lire, du reste même à comprendre comme ça, si vous le lisez attentivement, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que vous dites. N'est-ce pas ? C'est difficile à comprendre. C'est pas comme ça du tout. Il faut le relire et le relire. Les idées ne sont pas. Alors je crois qu'il faut être très attentif à ce sujet au point de départ. Tout cela, même qui précède, rend manifeste les inconvénients qu'entraîne l'opinion de ceux qui prétendent que les idées sont des substances douées d'une existence séparée. C'est du tricot, c'est à peu près ça. Enfin, c'est à peu près ça. Et qui, en même temps, n'en constitue pas moins l'espèce, à partir du genre et des différences spécifiques. Je crois que c'est très important de voir ça. Oui, nous sommes bien en continuité avec ce qui avait été dit précédemment. Et Aristote va essayer de comprendre le problème des idées dans la lumière de la trilogie. Vous voyez, c'est ça qui va être très curieux. Et on va trouver cela. C'est pour ça que je crois qu'il faut le comprendre de cette manière-là. Alors je vous donne ce qui me semble être ce qui conduit ce chapitre 14, et après je verrai quelques petits détails, n'est-ce pas ? Parce que autrement, vous n'y comprendrez rien du tout. Alors que je crois qu'il y a une intuition importante à saisir dans ce chapitre 14. Une intuition importante. Montrez donc, d'une part, les idées, d'autre part, toujours l'ousia. Il n'y a pas de commune mesure, ce sont deux mondes différents. On ne peut pas dire que les idées, c'est les substances. L'ousia, c'est un seul endroit, c'est-à-dire c'est premier dans l'ordre de l'être. Alors, je crois qu'il y a une idée foncière dans Aristote là-dessus, c'est l'idée de la participation. C'est que les idées permettent la participation. Il y a une participation au niveau des idées. Et alors, on voit très bien comment ça a été très développé après, dans les successeurs. Chez Platon, c'est développé sans être très développé, la dialectique descendante, quand elle montre une certaine participation. Parce que c'est dans la dialectique descendante que se loge la participation, c'est pas dans la dialectique ascendante. Mais dans la dialectique, vous voyez la différence. Hein? La dialectique ascendante, on part de un beau corps pour arriver à la beauté en soi. Le beau en soi, la beauté en soi. Ça, c'est le banquet. Alors, la dialectique ascendante. La dialectique descendante, c'est au contraire essayer de comprendre les idées, les liens qu'ont les idées entre elles. Ce qui est beaucoup plus difficile, on dit bien. Enfin, vous partez d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est une induction, mais il y a quand même quelque chose d'une induction. On part d'une expérience, qui est un choc donné, pour découvrir ensuite le beau en soi. Redécouvrir, par la réminiscence, redécouvrir le beau en soi. Mais il y a quand même, on part d'une certaine expérience. Pour découvrir ça, c'est la dialectique ascendante. Alors, avec des degrés successifs, tout ça, on part d'un beau corps, puis de la multiplicité, puis des occupations de l'âme, puis de la beauté de l'âme, puis de tout le reste. Alors, il y a des échelles successives, des paliers successifs. C'est pour ça qu'on dit dialectique ascendante. Dans la dialectique ascendante, la participation n'apparaît pas. Tandis qu'au contraire, dans la dialectique descendante, la participation apparaît. Or, il me semble que l'idée foncière, qui est, encore une fois, qui est dite ici sans être dite d'une façon très explicite, l'idée foncière, je crois que vous vous trompez, l'idée foncière, c'est de, dans la dialectique descendante, c'est de voir le problème de la participation. Vous voyez, c'est-à-dire que, pour Aristote, la participation n'a rien à voir avec la substance.
persistant comme tel ne peut pas être pape.
Ça, c'est un gros, gros problème.
Persistant comme tel ne peut pas être pape. Il est parce que, par définition, elle est première dans l'ordre. Alors que les idées peuvent être participées. La participation peut exister dans les idées. Alors, parce que la participation peut exister dans les idées, nous avons là un moyen très net sur lequel Aristote va de fait insister pour essayer de comprendre que les idées, ce n'est pas la substance. Parce que les idées tolèrent la participation. Et la participation est née pour essayer de saisir les liens entre les idées. Alors, si la participation est née pour essayer de saisir les liens entre les idées dans la dialectique descendante, on comprend très bien que le problème des idées est noué dans la participation, alors que le problème de la substance n'a rien à voir avec la participation. Vous ne pourrez jamais saisir la substance par la participation. La participation est au-delà, je veux dire, la substance est au-delà de la participation, puisque c'est un premier. Alors que la participation nous fait tout saisir un second. Le propre de la participation, c'est saisir un second, puisque c'est saisir quelque chose qui est relatif. Ça, c'est très très important. Remarquez que Saint-Thomas reprendra cette affirmation qu'il dit d'ici la fin, qui n'est pas encore explicitée, mais Saint-Thomas dira textuellement que la substance ne peut pas être saisie par la participation. Et on comprend très bien, puisque la substance est quelque chose de premier. Tout problème se doit saisir au plan théologique, de saisir des substances créées. Ça, c'est un autre problème, vous comprenez. Mais c'est la participation ne peut pas nous faire saisir la substance. C'est pour ça que toutes les philosophies de la participation élimineront la substance. Pas de la substance. Oui. Et comprendre pour Aristote est important. Puisque si les idées vont donner naissance à tout problème de la participation, pour bien faire comprendre la différence qui existe en saisie de ce que c'est que la substance par rapport aux idées, il faut montrer justement qu'il y a dans la substance quelque chose qui est au-delà de la participation. Oui. Je crois que c'est cette idée qui est dominante. Et pour confirmer cela, je prends cet aspect d'Aristote dès le point de départ. Il nous dit que les idées doivent se comprendre en fonction de l'espèce. Alors vous voyez, c'est là où on voit l'interprétation d'Aristote. Hein. Parce que ça, c'est pas du tout dans le point de vue de la théologie. Mais Aristote veut nous donner une intelligibilité des idées à travers son système. Alors, il y a l'espèce, genre, les différences spécifiques. L'espèce participe du genre et de la différence spécifique. Donc, c'est tout le problème de la participation. Vous voyez, si vous faites une petite enquête de la participation chez Aristote, vous voyez que le mot participation est gardé dans les catégories. Alors qu'en métaphysique, Aristote n'entend jamais le mot participation, parce qu'au début des métaphysiques, il dit que le mot participation ne signifie rien. Là, il va très fort. Alors que dans les catégories, au contraire, le mot participation existe tout le temps pour montrer les liens qui existent entre l'espèce de genre et la différence spécifique. Et on voit le mot participation. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion formelle. Pour Aristote, la participation, c'est une communion formelle. C'est une communion dans la détermination formelle. Or, l'espèce et le genre sont liés de telle manière que l'espèce est contenue dans le genre. L'espèce est contenue dans le genre, mais le genre enveloppe l'espèce. Et donc, il y a un lien de participation entre les deux, comme entre la différence spécifique et l'espèce. Alors, c'est quand même très curieux, vous voyez, c'est pour ça que je souligne cela. C'est quand même très curieux de voir que le mot participation chez Aristote, il emploie de temps en temps, pour ne pas dire du tout qu'Aristote exclut le mot médicatif, il ne l'exclut pas du tout de son langage. Mais c'est à l'égard des catégories qu'Aristote emploie le plus, pour essayer de saisir les liens entre espèce, genre et différence spécifique. Alors, vous voyez, il rappelle ça au début, c'est un petit rappel. On voit très bien, ça dira au début de ce chapitre 13, il nous dit, les idées, il faut les comprendre comme ça. Et si vous regardez le raisonnement d'Aristote ensuite, il nous dit, en effet, l'animal en soi, vous allez tout de suite voir, l'animal en soi, donc l'idée animal en soi, l'homme en soi, donc il va voir le lien entre l'animal en soi et l'homme en soi, genre, espèce, vous voyez bien, le lien entre les deux. Genre d'espèce, le cheval en soi, notre une autre espèce, le cheval en soi. Vous pouvez les multiplier comme ça. Mais bon, vous voyez bien que de fait, il fait appel directement à ce schème bien connu chez lui, dans les catégories, bien connu entre espèce, genre et différence, qui est le lieu de la participation. Là, il y a une participation. Au niveau de l'universel, on peut parler de participation, dans le langage d'Aristote. On peut parler de participation au niveau de l'universel. Mais vous ne pouvez plus parler de participation au niveau métaphysique. dans l'analyse métaphysique. Pourquoi? Parce que l'assistance est au-delà de ce qu'on représente à partir de la science. Alors, il me semble bien que ce chapitre 14 a comme intérêt de montrer que la participation règne dans les idées et la participation n'a rien à voir avec la substance. Et, encore une fois, j'interprète ce chapitre 14. Je l'interprète parce que si vous le lisez uniquement matériellement, vous ne voyez pas ça très bien. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons le lire matériellement, les éléments. Alors, si vous avez cette point d'interrogation comme si vous voulez, comme hypothèse de recherche, vous comprenez ce que ça signifie. Pour moi, personnellement, ça me donne la lumière. Alors, je ne sais pas si ça vous la donnera, mais j'espère. Parce que, c'est intéressant, quand on a un chapitre où on ne voit pas très très bien, on se dit qu'est-ce que ça signifie, puis tout d'un coup, on se dit, oui, rapprochons ça de ce que Aristote dit à propos des liens entre genre et différences spécifiques, où il parle de la participation, et ici, très nettement. Alors, voici. Donc, il va souligner les impossibilités. Montrer que si vous faites des idées, des substances, vous êtes amené à des dégradations. Si vous faites des idées des substances, autrement dit, si vous considérez que les idées de Platon sont des substances, vous aboutissez à quelque chose d'impossible. Si les idées existent, si l'animal en soi est dans l'homme en soi et dans le cheval en soi, c'est la participation. Donc si l'animal en soi est dans l'homme en soi et dans le cheval en soi, vous pourriez dire tout de suite que déjà dès maintenant, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de sujet, il ne peut pas y avoir de substance, puisque la substance. Non. Ça c'est donc être universel. Alors, si l'animal en soi est dans l'homme en soi et le cheval en soi, ou l'animal en soi est une seule et même réalité, ou l'animal en soi est une chose différente en chacun, deux hypothèses. Vous pouvez vous dire que l'animal en soi est dans l'homme en soi et dans le cheval en soi, et qu'il est toujours l'animal en soi, sans changer. Il reste toujours l'animal en soi, parfaitement déterminé. Au contraire, vous pouvez dire, l'animal en soi n'est pas de la même manière dans l'homme, il n'est pas de la même manière dans le cheval en soi. N'est-ce pas? L'animal règne autrement dans l'homme et autrement dans le cheval en soi. On voit très bien les deux hypothèses. Hein? Vous voyez tout de suite, il est bien dans la perspective qu'il regarde du point de vue des liens qui existent entre le genre, la différence et l'espèce. Donc, pour l'animal en soi est une seule et même réalité, donc un seul logos, ou au contraire, l'animal en soi est une chose différente en chacun. Or, il n'y a qu'un logos de l'animal en soi. Il y a un homme en soi et par soi, un être déterminé et séparé. Nécessairement, les deux éléments dont il se compose, animal ou spèce, signifieront des êtres déterminés et séparés. Donc, l'animal en soi ne peut pas être une substance. D'après tout ce qu'il a dit, il y aurait des éléments en acte qui seraient dans l'animal en soi et qui ne pourraient pas faire le principe d'animal en soi. Alors, voyez, la participation n'est pas présente, soit qu'elle est présente dès qu'on vient de point de départ de l'animal en soi comparativement à l'homme en soi et au cheval en soi. Mais si l'animal en soi est un et identique dans le cheval en soi et dans l'homme en soi, comme ce qui est un, comment ce qui est un pourra-t-il être dans les êtres séparés? L'animal en soi ne sera-t-il pas séparé de lui-même? Oui. Alors, ça, c'est le point de vue qu'il reprend comme opposition. Si l'animal en soi est un et identique dans le cheval en soi et dans l'homme en soi, donc nous le regardons parallèlement au cheval et l'homme en soi, comment ce qui est un pourra-t-il être un dans des êtres séparés? On ne va pas rester un dans des êtres séparés. Autrement, vous êtes obligé de dire que justement, ces êtres sont composés et non plus unitaires. Alors, l'animal en soi ne sera-t-il pas séparé de lui-même? Vous arriverez à séparer l'animal en soi en voyant que de fait, vous pourrez aller vers un genre plus grand. Et alors, vous séparez l'animal en soi de lui-même. Si on veut que l'animal en soi participe du lui-même, là le mot participation est présent. Donc, si on veut que l'animal en soi participe du bipède et de l'animal à tout, et de l'animal à multiples pieds, et cet animal tout à fait particulier. Enfin, si on veut que l'animal en soi participe du bipède et de l'animal à multiples pieds, vous voyez bien, il faut faire la distinction. C'est bien un climat de catégories. Enfin, ça veut dire c'est une projection très nette de l'influence des catégories sur la participation des idées. Alors, vous avez l'animal en soi. Ceci est très facile à comprendre, c'est pour ça que je reprends. Le précédent était un petit peu plus difficile, c'est pour ça que je ne souffle pas. Vous parlez de Parce qu'on connaît au moins cette argumentation aussi. Et ça, je crois que c'est là qu'on peut tout la comprendre. L'animal en soi, donc, prenons pas l'animal en soi, prenons l'animal en soi, si on y respecte. Donc, l'animal en soi, il est bipède, ou il a de multiples pieds. Hein? Il va pivoter. Donc, si on veut que l'animal en soi participe du bipède et de l'animal à multiples pieds, les attributs contraires sont dans un même sujet. Bipède et multiples pieds, c'est contraire. Alors, bipède et multiples pieds se trouvent dans le même sujet, l'animal en soi. S'il participe des deux, ce qui est impossible. Donc, le même sujet ne peut pas posséder, évidemment, des choses contraires. Or, si vous considérez l'animal en soi qui participe du bipède ou de l'animal à multiples pieds, vous devez dire que nécessairement les attributs contraires sont dans un même sujet, ce qui est impossible. Donc, vous voyez bien que c'est le problème de la participation qui est vu au niveau, pour Aristote, au niveau du genre et des différences spécifiques, tout simplement, parce qu'au fond, c'est tout à fait ça, le point de vue du genre, l'animal genre, bipède et multiples pieds, c'est la différence spécifique. Or, vous mettez la participation dans le point de vue de l'animal en soi qui contient les deux, alors vous direz que l'animal en soi contient les deux. Il contient le bipède et le multiple pied. Donc, le même sujet contient les contraires. Oui, donc, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire de l'animal en soi une substance. Si vous faites de l'animal en soi une substance, vous aurez les contraires qui sont présents dans cette substance. Ça ne va plus. Ce que vous faites, c'est ça. Hein? C'est de réifier un genre. En faisant animal en soi, vous réifiez un genre. Si vous le considérez comme genre, vous voyez que les différences spécifiques viennent diviser le genre. Alors à ce moment-là, ça va très bien. Parce que le genre se divise par les différences spécifiques. Mais si vous réifiez le genre, si vous passez du genre à l'animal en soi devient une substance. Vous le réifiez. Vous en faites un être. Mais alors à ce moment-là, que deviennent les différences spécifiques vivent des multiples pieds. Bon. Dans ce point de vue, alors vous êtes obligé de dire que cette substance sera sujet de deux contraires. Si on renonce à la participation, dit Aristote, comment comprendre le lien entre l'animal et le bipède? Donc, mais il vient de la participation qui est là. Si on renonce à la participation, comment comprendre le lien entre l'animal et le bipède? Donc, si vous renoncez à la participation, vous ne pouvez plus comprendre les liens qui existent entre les idées. Je crois que c'est ça qui peut montrer. Parce que le lien entre les idées, nous les comprenons parallèlement entre le lien entre le genre et la différence spécifique et l'espèce. Voilà ce qui nous donne comme intelligibilité de la chose. Or, si vous renoncez à la participation, vous ne pouvez plus comprendre les liens qui existent entre l'animal en soi et le bipède. Si vous renoncez à la participation, si au contraire vous acceptez la participation, vous êtes en face d'un problème qui n'est plus du tout le problème de la substance, et qui est tout simplement le problème des liens entre les différents universaux. Or, nous avons vu que les universaux ne sont pas la substance, donc... Alors, enfin, faut-il supposer que l'animal en soi est autre en chaque espèce? Il y a alors une infinité d'espèces ayant animal pour substance. Donc, voyez, je crois que tout le raisonnement se ramène à ça. Alors, c'est intéressant comme raisonnement, c'est assez astucieux. C'est assez astucieux, hein? Encore une fois, ça ne regarde pas du tout le point de vue de Platon, au sens rigoureux, Platon regarde ça dans une perspective tout à fait différente, mais ça montre que les idées ne peuvent pas être intégrées dans la perspective d'Aristote. Les idées ne peuvent pas être intégrées dans la perspective d'Aristote. Les idées ne peuvent pas être intégrées parce que les idées ne pourraient être intégrées dans la perspective d'Aristote qu'en fonction de la division des modalités de l'univers. Et Aristote fait un parallélisme, qui est très très fort, un parallélisme entre la modalité et les liens qui existent entre les universaux et le point de vue des idées en soi. Oui. Si vous réfléchissez un peu là-dessus, vous voyez qu'Aristote a déjà fait quelque chose de semblable. Il a montré que, au niveau artistique, l'idée artistique était dans l'ordre artistique substance. Donc, si toutes les réalités se concevaient d'un point de vue purement artistique, sous le point de vue de l'art, les idées seraient substance. Ici, Aristote fait quelque chose de semblable en disant « Si je prends les diverses modalités qui existent entre les différents universaux, genre, différence spécifique, etc. Et je vois un parallélisme avec les idées. Je vois en effet qu'il y a un lien de participation entre ces différents universaux, ces diverses modalités universelles. Je vois ce lien. Et si je réifie ces universaux, je vois les idées. Mais les liens qui existent entre ces idées sont les participations et donc ne font rien déduire de ce que c'est que la souffrance. Je crois que ce n'est pas autre chose que cela. C'est de montrer que les idées ne peuvent rien faire déduire de la substance. La substance, c'est un autre domaine. Ce n'est pas le domaine des idées. Parce que le domaine des idées implique justement le domaine des participations entre les idées qui impliquent une universalité plus grande et les idées qui impliquent une universalité moindre. Et ces liens sont analogues à ce que nous voyons au niveau des différents résultats. Je n'insiste pas plus. Vous voyez, c'est intéressant à dédire, parce que c'est toujours très astucieux, cette manière de critiquer les idées. Vous voyez, ça peut nous irriter si nous sommes du côté de Platon, mais c'est très astucieux si nous sommes du côté d'Aristote. Vous voyez, c'est ça possible. C'est toujours les deux camps, n'est-ce pas? Chapitre 15. Alors encore, un autre aspect. Chapitre 15 nous montre que l'individu et par suite l'idée ne sont pas des unités. Alors c'est quelque chose de très particulier là. Voyez ce que dit Ross au lieu analogue, donc quand il commence le chapitre 15, il nous dit que ce chapitre 15 doit être pris comme la suite du chapitre 13. Donc il met entre parenthèses le chapitre 14, ce que fait habituellement Ross. C'est que lorsqu'il s'agit de tout ce que regarde le point de vue de la critique des idées, il les met en dehors. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Je crois qu'il y a un développement dans la pensée d'Aristote sans se soucier du tout, non pas de ce qu'on représente proprement le point de vue des idées de Platon, mais il s'en sert pour mieux comprendre la chose. Donc il dit que le chapitre 15 doit être la suite du chapitre 13. Puisqu'au chapitre 13, vous vous souvenez qu'on avait posé la théorie de la définition. C'est très vrai, il y a un lien entre la fin du chapitre 13 et le chapitre 15. Très bien, parce que nous revenons sur la définition. Alors on peut mettre le chapitre 14 entre parenthèses. Vous voyez, je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Mais n'est-il pas plus exact de saisir l'ordre de ce chapitre en regardant l'intention profonde d'Aristote? C'est toujours la première chose qu'on doit faire. Je crois, avant de prendre uniquement des ressemblances philologiques. Le défaut du philologue, c'est de voir, on a parlé de la définition, on n'en parle plus, on en reparle, supprimons entre deux, et puis continuons. Alors ça, c'est un ordre un tout petit peu trop matériel, vous voyez, un tout petit peu trop matériel. C'est facile de faire ça, c'est très facile de mettre les lignes entre parenthèses. Bon. Je crois qu'avant de les faire, on est quelquefois obligé de les faire, mais avant de les faire, il faut toujours se demander s'il n'y a pas, dans la pensée même d'Aristote, quelque chose qui légitimerait cet ordre. Vous voyez, je crois que c'est honnête à l'égard de l'auteur de toujours essayer de comprendre son intention profonde. Donc, essayons de comprendre l'intention profonde du philosophe. La substance ne peut être l'universel. Donc, les formes d'idées ne peuvent être substance. Parce que les formes d'idées sont ramenées à l'universel. Très, très nettement. Il le dit des points de départ. Il considère les formes universelles à travers le schéma des universaux. C'est très très net, il n'y a pas d'autre possibilité. Il est regarde à travers cela. Les formes universelles pour lui, l'animal en soi, c'est le genre. Vous comprenez? Donc c'est le genre substantifié. Donc, la substance ne pouvant être l'universel, il est tout à fait normal dans la perspective d'Aristote, encore une fois, en y passant dans la perspective d'Aristote, que les formes idéales, par le fait même, ne peuvent pas être substance, car elles possèdent le privilège d'être quelque chose qui est universel. Elles sont des principes, elles sont des mesures, et donc elles commandent la connaissance de tout ce que représente les singuliers. Donc elles jouent bien dans le système de Platon le rôle de l'universel dans le système d'Aristote. Dans la perspective de Platon, les formes idéales me permettent de connaître tous les individus. Je connais le cheval, ce cheval, grâce au cheval en soi. Je connais cet homme grâce à l'homme en soi. Si je ne connais pas l'homme en soi, je ne connais pas Pierre-Jacques et Jean. N'est-ce pas? Pierre-Jacques et Jean sont connus par l'homme en soi. C'est l'homme en soi qui fait connaître les individus. Autrement, je ne peux pas les connaître. Eh bien, par le fait même, dans la pensée de Platon, les idées sont un principe de connaissance des individus. Or, dans la perspective d'Aristote, les universaux sont ce qui me fait connaître les individus. Vous voyez, il y a là une analogie très nette. Une fois que je comprends cette analogie, je comprends très bien, là, comment, à la suite du chapitre 13 et du chapitre 14, c'est tout à fait normal. là, c'est absolument nécessaire d'utiliser ce chapitre-là. Vous voyez, que de fait, après avoir montré que la substance n'est pas universelle, le contenu du chapitre 14 vient immédiatement après, ce que c'est le contenu, vous avez souri, parce que c'était tout simplement une tautologie en 13 et 14. Je parlais du contenu. Vous voyez, vous restez au niveau extérieur. Hein. Donc, si vous suivez le contenu de la chose, vous comprendriez que c'est le contenu de la chose. C'est le contenu du chapitre 14 qu'on regarde. Or, le contenu regarde les idées. Alors, on comprend comment, après avoir montré de fait que les substances ne peuvent pas être universelles, les formes d'idéal qui sont conçues comme impliquant un principe d'universalité par rapport à la connaissance ne peuvent pas être substances. Ceci permet à Aristote de faire à la théorie des idées une nouvelle critique. Il n'ira jamais. Il faut bien voir qu'Aristote essaie par tous les moyens, étant donné l'emprise que représente la théorie des idées. Donc, l'emprise de la théorie des idées est telle autour d'Aristote, qu'Aristote peut tout le temps montrer que cette théorie des idées est inutile, qu'il a quelque chose de meilleur. Voilà ce qu'il veut montrer. Il a quelque chose de meilleur à remplacer la théorie des idées. Et toute sa théorie de l'universel est là pour remplacer la théorie des idées. Mais en montrant bien que l'universel n'est pas substance. Donc, celles-ci, les idées, ne peuvent être des êtres premiers. Voilà la grande idée. Le point de vue des idées ne peuvent pas être des êtres premiers. Parce que justement, les idées implique la participation. Si les idées impliquent la participation, les idées ne peuvent pas être quelque chose de premier. Ensuite, il montre qu'il ne peut pas y avoir de définition de l'individu et qu'il ne peut pas y avoir non plus de définition des idées qui sont elles aussi, selon les partisans, des idées des individus. Les deux grands aspects des idées. L'idée est à la fois universelle, l'idée est individuelle. Alors, il attaque les idées sur les deux aspects, le point de vue universel et le point de vue des individus. Et il est nécessaire de les attaquer sur ce double point de vue. Parce que dans la perspective des partisans des idées, les idées ont ces double aspects. Les idées sont à la fois universelles, principes par où je connais les individus, et les idées sont des individus existants. Vous voyez ? Donc il faut bien les attaquer sur les deux aspects. Sauf que je crois, si on regarde attentivement, qu'il y a là un ordre qui peut très bien se comprendre. Et c'est important, parce que si on commence à modifier l'ordre, vous voyez, on modifie l'intention profonde d'Aristote. L'intention profonde d'Aristote qui continue en montrant par le point de vue que les substances ne sont pas universelles. Il y a une irréductibilité entre le point de vue de la substance et l'universel. L'universel est premier dans l'ordre de l'être de raison. L'universel possède une priorité dans l'ordre de l'être de raison. L'universel a quelque chose de premier dans un ordre de l'être. Mais ce n'est pas premier dans l'ordre de l'être. L'universel est premier dans l'ordre de la connaissance. Dans l'ordre de la connaissance, il est bien évident que l'universel est une priorité. Alors, cette priorité dans l'ordre de la connaissance, est-ce qu'elle nous permet de passer à la priorité dans l'ordre de l'être? Aristote montre non. Impossibilité. Il faut respecter la différence entre la priorité de l'ordre de l'être et la priorité dans l'ordre de ce que représente l'universel. Et dans cette lumière-là, il nous montre que par le fait même que les idées jouent le rôle d'universel, et qu'à ce niveau-là, la participation joue pleinement, nous ne pouvons pas identifier les idées et la substance. Et il reste ensuite, alors le chapitre 15, pour montrer qu'il ne peut pas y avoir de définition d'individu, il ne peut pas y avoir de définition des idées. Or, nous avons montré au contraire que la seule chose qui était définissable, c'était la substance. Donc c'est une nouvelle manière de montrer qu'on ne peut pas considérer les individus et les idées comme étant la substance. C'est une chose aussi très importante. On ne peut pas identifier le point de vue des idées, on ne peut pas identifier la substance et l'individu. Pourquoi ? L'individu est comme vie. Si l'individu est comme vie, tous les individus que nous connaissons sont corruptibles. Si l'individu est corruptible, il n'est pas premier. Nécessairement, ce qui est corruptible implique la potentialité vers le non-être, et par le fait même ne peut pas être premier. Donc les individus ne sont pas premiers dans l'ordre de l'être. On ne peut pas identifier ce qu'est la substance avec l'individu. Vous voyez, la grande purification de sa présence, c'est pas si comme que ça, c'est dit. Parce qu'au fond, à première vue, on dirait, mais l'autorité, c'est l'individu. Pas du tout. L'autorité n'est pas l'individu pour Aristote. enfin, au sens fort. L'individu, c'est ce qui est corruptible. La substance, c'est au contraire un principe d'être. C'est dans ce pas corruptible. C'est un principe d'être. Ça ne veut pas dire que, justement, ce principe d'être va exister comme principe. Il va toujours exister dans des individus. Mais l'individu comme tel, ce n'est pas la substance. C'est autre chose. Il faut donc distinguer les deux. Toujours parce que nous recherchons le qui est-qui de la substance. Et quand nous cherchons le qui est-qui de la substance, nous ne pouvons pas identifier le qui est-qui de la substance avec l'individu. Alors dans ce chapitre 15, Aristote nous montre que nous ne pouvons pas définir les individus. C'est très facile à comprendre qu'on ne peut pas définir les individus parce que justement le point de vue de l'individu est corruptible et par le fait même qu'il est corruptible, c'est impossible. On ne peut avoir des individus qu'une opinion et non pas une définition. Puis ensuite, il se pose la question, est-ce que, de fait, on peut alors avoir une définition de ce que représentent les idées? Et il montre qu'on ne peut pas avoir de définition des idées, parce que les idées sont justement un être individuel. Ce sont des êtres individuels qui échappent par le fait même à ce que représente le point de vue de la définition. Et alors c'est une confirmation, vous voyez, au chapitre précédent, ce n'est pas le même argument, c'est une confirmation pour montrer que les idées ne peuvent pas être. Alors, la fois prochaine, tout ça c'est l'ordre négocié.
17e cours.
Entrer dans la pensée d'un auteur, c'est vrai pour tous les auteurs, mais c'est particulièrement vrai pour Aristote parce que, de fait, il a une pensée très analytique. Il a une pensée très analytique et une pensée aussi qui est à des niveaux différents. C'est peut-être cela que nous avons le plus de peine à comprendre. C'est qu'il y a vraiment des lectures différentes à des niveaux différents. Il n'a pas du tout comme une vision d'ordre dialectique qui serait unilatérale, il a toujours une vision selon des points de vue différents, et donc une analyse qui implique des lectures à des niveaux différents, des niveaux différents d'intelligibilité. Et c'est ça nous déroute. Donc, profondément, c'est ce que les autres diront de pensée analogique, et elle sera exprimée, nous verrons, quand nous serons au livre Theta, c'est à ce moment-là où Aristote exprimera vraiment sa pensée. Il attendra la découverte de l'acte pour l'exprimer. Alors il faudrait aujourd'hui, vous voyez, résumer un peu tout ce que nous avons fait. Parce qu'au terme, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt avancer. Je voulais terminer le livre Theta aujourd'hui. Je crois que je n'y arriverai pas, étant donné l'importance du dernier chapitre. Je sais qu'on le verra au séminaire, mais comme au séminaire, tout le monde n'est pas là. Je suis obligé quand même d'en dire un petit mot, mais je serai assez bref. Alors, voyez, essayons à la fois de résumer ce que nous avons vu et puis de continuer un peu le chapitre 16 et 17. Nous avons, je crois, compris que les livres d'Aristote, je ne sais pas de synthèse, nous la ferons au terme de l'année, c'est-à-dire à la fin du semestre d'été, comment les livres d'Aristote de la métaphysique avaient chacun leur tonalité. Le livre grand A, le livre petit A, le livre grand A c'est l'exhortation par rapport à tous les philosophes qui sont avant, le livre petit A qui est une exhortation très particulière sur le sens de la vérité et le sens de la philosophie qui cherche la vérité, le livre bêta qui est un livre de topique et dialectique sur tous les problèmes et tous les apports qui se posent, le livre gamma qui est un livre encore de perspective critique, de réflexion critique, sur ce que représente cette première science qui est la science de l'être en tant qu'être et qui donc doit regarder aussi les premiers principes. Donc nous voyons que chacun de ces livres a une tonalité différente, vous voyez. C'est la différence quand vous lisez aujourd'hui un auteur, il y a des chapitres différents. Ici ce ne sont pas des chapitres, ce ne sont pas des livres, c'est presque chacun d'entre eux ont de fait une orientation particulière. Mais je crois qu'il y a quand même à travers tout cela, malgré la très grande diversité, il y a quand même une certaine unité. Et c'est cela qu'il faut toujours se poser. Je vous l'avais dit au début, je ne vais pas répéter après, je vous le répète maintenant, c'est que c'est important de voir à travers cette diversité, de découvrir l'unité. Or, on ne peut pas nier que quand on est en face du livre Zeta, on est en face, Aristote du reste dit lui-même, le livre Zeta représente pour lui ce qu'il y a de principal à la connaissance de la philosophie première. Puisque le qui est-il de l'être et le qui est-il de l'ousia s'identifient. Or, de fait, il nous a présenté cette philosophie première comme la recherche de ce que c'est que l'être. Mais rechercher l'être, ce n'est pas décrire l'être, puisque ça ne peut pas se décrire, c'est d'essayer de découvrir en profondeur ce qu'est l'être. Or, l'ex se donne en premier lieu dans l'ousia, et donc c'est l'ousia que nous devons regarder en premier lieu. Nous ne comprendrons tous les autres aspects de l'être qu'à partir de ce premier aspect fondamental. Autrement dit, à partir de l'ousia, nous comprenons la qualité, la quantité. Et Aristote ne les traitera pas. Et ce qui est aussi très significatif, ça montre bien qu'au fond, il va à l'essentiel. Vous voyez, comme quelqu'un qui creuse, ce sont ceux qui suivent qui peuvent regarder les dentelles. N'est-ce pas? Mais celui qui creuse donne les choses essentielles. Et je crois que ça c'est très significatif. Aristote va regarder le point de vue de l'être avant tout par l'ousia, il ne fera pas un traité de la qualité. On aimerait qu'il y ait un traité de la qualité au niveau métaphysique, c'est très très intéressant. Il nous a donné que dans le livre Delta, ce qu'il considérait comme l'essence multiple de la qualité. Et quand vous lisez le livre Delta sur la qualité, vous vous apercevez que tout ce qu'Aristote dit sur la qualité dans les autres livres ne correspond pas au livre Delta. Et donc, ça prouve bien qu'il a un regard métaphysique sur la qualité qui est autre que ce qu'il dit dans la physique, que dans, les traités sur le vivant, ou même dans le traité d'éthique. Alors, on voit très bien que, de fait, comme un homme qui saisit les choses essentielles, ne s'arrête pas aux choses secondaires. Parce que ça ne nous apporterait pas beaucoup plus de sens de l'être de regarder la qualité. Ce serait très important pour nous pour voir tout le rayonnement de la signification de l'être, mais ça ne nous apporterait pas beaucoup plus. Et je crois que pour nous, ça nous apporterait parce que nous avons besoin d'avoir les autres modalités. C'est très important de regarder la qualité pour comprendre un peu mieux ce que c'est que l'être et pour mieux comprendre l'aspect qualitatif de l'être. Mais on a de la peine, je veux dire, au sens rigoureux, si on saisissait ce que c'est que la substance, on n'en a plus besoin. Vous voyez? D'une certaine manière. D'une certaine manière. Étant donné notre condition humaine, nous en avons toujours besoin. Mais Aristote considère qu'ayant saisi la substance, il peut aller plus loin. Ayant saisi la substance, il ira plus loin. Alors, dans ce livre Zeta, je crois que vous l'avez déjà saisi, ce livre Zeta que nous voyons est un livre très négatif. Puisqu'Aristote ne cesse de montrer que la substance n'est pas ceci, n'est pas cela, qu'elle est toute proche de ça, mais qu'elle n'est pas cela. Constamment, en cherchant le tiesti de la substance, Aristote montre l'aspect constamment négatif. Ce qui montre très bien comme une saisie